Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris, 3h en temps universel. Vous écoutez SBS French, votre programme en français. Je suis Marianne Murat et comme d'habitude, je suis très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Comme chaque samedi, il va y avoir bien sûr la rétrospective. On vous emmène aujourd'hui en 1961, l'année de la création d'Amnesty International. Cette chronique vous est présentée par notre journaliste Léo Roussel. Ensuite, il y aura Europa Voice numéro 97 et au programme de cette Europa Voice, on va parler gouvernement, notamment le gouvernement australien qui vient d'être nommé. On sait que depuis septembre, la relation avec la France est au plus bas, notamment avec la crise des sous-marins. Est-ce que cette relation va se réchauffer avec ce nouveau gouvernement australien ? On en parle justement avec Nathanaël Bloch. On va parler aussi du gouvernement français et donc la place de la France au sein de l'Europe avec ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Tout ça, c'est pendant une heure et on commence maintenant avec le journal, puis le journal des sports. Les titres de ce samedi 28 mai 2022. L'assemblée annuelle du lobby pro-armes aux États-Unis en présence de plus de 50 000 membres, dont Donald Trump. L'ancien président américain appelle à davantage armer les citoyens, 3 jours seulement après la fusillade d'Uvalde qui a coûté la vie à 19 enfants. La guerre en Ukraine est entrée dans son 4e mois. Moscou prévient qu'elle sera longue, très longue. Volodymyr Zelensky dénonce lui un génocide et les combats se poursuivent dans le Donbass. En Australie, la famille Murugapan va bientôt pouvoir retourner à Biloela dans le Queensland. Anthony Albanese l'avait promis, c'est désormais confirmé. Et enfin, du sport, plus que quelques heures avant la finale de la Ligue des Champions, le choc Real Madrid contre Liverpool, c'est ce soir au Stade de France. On en parle dans le Journal des Sports. On ouvre ce journal avec le rassemblement plus que polémique de la NRA, la National Rifle Association, seulement 3 jours après la fusillade mortelle d'Uvalde. On le rappelle, un jeune Américain de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire du sud du Texas, tuant 19 enfants et 2 enseignantes. Il a été abattu par la police. Eh bien, ce vendredi, le lobby pro-armes tient tout de même son assemblée annuelle, en présence de près de 55 000 membres, pas moins. Et au Texas, justement, c'était à Houston, donc à seulement quelques heures de route de l'école primaire. Une grande messe en présence de l'ancien président américain, on l'a dit en titre, Donald Trump, qui a demandé une minute de silence en hommage aux victimes avant d'appeler à armer davantage les citoyens américains pour, je cite, « combattre le mal dans notre société ». On écoute un extrait de son discours.
And we need to expand funding, recruiting and training for police departments nationwide. This is not a matter of money, this is a matter of will. If the United States has $40 billion to send to Ukraine, we should be able to do whatever it takes to keep our children safe at home.
Et on le disait, à quelques kilomètres de là, des centaines de manifestants protestent contre la réunion du lobby pro-armes. On écoute l'un d'entre eux.
I'm here today.
Je suis ici aujourd'hui parce que la NRA a décidé d'organiser une réunion après une tuerie de masse au cours de laquelle 19 enfants innocents ont été tués. Un ado de 18 ans ne devrait pas être autorisé à avoir une arme. Comment se fait-il qu'on puisse ne pas avoir le droit de boire de l'alcool, mais avoir le droit d'avoir une arme ? On ne peut pas aller au cinéma ou à l'épicerie sans avoir peur d'être tué. À l'école, on devrait se poser la question : est-ce que je vais réussir le contrôle ou est-ce que je vais être tué aujourd'hui ?
Et parmi les victimes de la tuerie d'Uvalde, 19 enfants, on le disait, 2 enfants. enseignantes, parmi elles Irma Garcia. Son mari, eh bien, il est décédé 2 jours plus tard d'une crise cardiaque. Ensemble, ils avaient 4 enfants. Une cagnotte a été lancée par sa cousine, la cousine de l'enseignante, pour venir en aide aux 4 orphelins. Elle a déjà récolté près de 2 millions de dollars. Dans le reste de l'actualité internationale, 94e jour de l'invasion en Ukraine, Moscou dénonce une guerre totale de la part de l'Occident contre la Russie. Moscou qui dit que cette guerre va être longue et dans le même temps, Moscou qui poursuit son avancée dans le Donbass. Les séparatistes pro-russes de Donetsk affirment avoir pris le contrôle complet de la localité de Liman. Pour l'heure, ni l'armée russe ni l'armée ukrainienne n'a commenté cette information. Oriane Verdier.
Selon l'état-major des forces pro-russes de la région de Donetsk, Liman serait aujourd'hui entièrement sous leur contrôle avec l'appui des forces armées russes. Comme vous le disiez, ni l'armée russe ni l'armée ukrainienne n'ont pour l'instant confirmé cette information. Le porte-parole de la défense ukrainienne a affirmé, lui, que des combats avaient encore lieu dans l'est de la ville. Depuis le début de l'offensive dans le Donbass, les forces de Moscou avancent difficilement et une fois une position prise, il faut encore arriver à la stabiliser. Liman est le dernier obstacle sur la route de Slaviansk à 30 km seulement. C'est la principale ville de la région avec la commune voisine de Kramatorsk. Parallèlement, les forces ukrainiennes luttent également pour défendre leur position dans la grande ville de Sieverodonetsk à 50 km à l'est de Liman. Elle est presque entièrement encerclée. Selon le chef de l'administration ukrainienne, près des 2/3 du périmètre de la ville sont occupés par les forces pro-russes. Seule une petite route de campagne permet encore d'en sortir pour rejoindre le reste de l'Ukraine.
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de génocide dans le Donbass. On l'écoute, il s'est exprimé lors de son allocution télévisée quotidienne.
As expected, the situation in the Donbass is extremely difficult. The occupiers are trying to achieve the goals they hope to achieve in the first days of the war after February 24th, at least before the 100th day of the war. That's why they have concentrated maximum artillery and reserves. They are using both missile and airstrikes.
Direction le Brésil à présent, où le pays est encore sous le choc après la diffusion d'une vidéo devenue virale. On y voit 2 agents de la police routière casqués tenter de refermer le coffre d'une voiture sur un homme noir dont les jambes dépassent du véhicule. L'homme de 38 ans est décédé. Il a été asphyxié par une épaisse fumée blanche qui se dégageait de la voiture, semblant venir d'une bombe lacrymogène. Il a été déplacé à l'hôpital. Il est décédé sur le chemin en allant à l'hôpital. Il s'appelait Genivaldo de Jesus Santos. La police se défend. Elle met en cause l'agressivité de la victime alors qu'il s'agissait d'un simple contrôle de routine. Depuis, de nombreux manifestants descendent dans les rues de Sao Paulo. Parmi eux, Douglas Belchior. Il est professeur d'histoire et il dénonce un crime qu'il juge raciste.
We understand that today, the Federal Highway Police acts like the Hitler's SS. And this is not an overstatement. This is just a continuation of a police practice that we know very well how it works. They enter in communities, favelas and black territories, killing people.
Après l'épidémie de coronavirus, on parle maintenant du monkeypox, aussi appelé la variole du singe. Près de 200 cas ont été signalés dans plus de 20 pays ces dernières semaines. 20 pays dans lesquels le virus ne circule habituellement pas, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé qui prévient d'ailleurs, ces 200 cas pourraient n'être que le sommet de l'iceberg. Pour Sylvie Briand, elle est directrice du département de préparation mondiale aux risques infectieux à l'OMS, il faut prendre les mesures adéquates immédiatement pour contenir rapidement cette maladie. Un stock de vaccins et de médicaments va donc être créé afin de pouvoir les envoyer à travers le monde si jamais la situation venait à s'aggraver. Un pas de plus contre le réchauffement climatique. On vient d'apprendre qu'un accord a été signé entre la Nouvelle-Zélande et l'État de Californie. Dans le cadre de sa visite aux États-Unis, la première ministre Jacinda Ardern s'est entretenue avec le gouverneur Gavin Newsom afin de mettre plus de véhicules électriques sur la route. Écoutez.
Again, that progressive notion, that desire for us to identify a challenge and not just meet it, but push further, harder, faster, is still what both California and New Zealand are still trying to do when it comes to the crisis of climate change.
En Australie, la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, poursuit sa tournée diplomatique. Dans un discours prononcé depuis les Fidji, elle a rappelé l'importance d'un partenariat entre Canberra et la région Indo-Pacifique, tout en mettant en garde contre le pacte de sécurité signé entre Pékin et les îles Salomon. On l'écoute.
We want to work with you on your priorities. We want to work together as part of the Pacific family. Obviously, we've expressed our concerns publicly about the security agreement between Solomon Islands and China. And the reason we have is we think there are, as do other Pacific nations, we think there are consequences. We think that it's important that the security of the region be determined by the region.
Ils sont à eux seuls tout le symbole de la politique migratoire en Australie. La famille Muragappan, demandeur d'asile tamoul, arrivée en Australie il y a 10 ans après avoir fui la guerre civile au Sri Lanka. Ils sont coincés dans un centre de détention depuis des années avec leurs deux filles, leurs deux enfants. Eh bien, Anthony Albanese l'avait promis, s'il était élu, ils vont pouvoir retourner à Biloela dans le Queensland grâce à des visas de transition. Cette promesse avait été faite lors de la campagne électorale et elle a été confirmée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Jim Chalmers.
Well, I've now spoken to the family, and they've gone on through the processes at the Perth end, and I really just wanted to ring you and tell you how much we appreciate the way that you've spoken up for this beautiful family, and for the great credit that you've brought to that beautiful Queensland town of Biloela. Obviously, there's some arrangements to be made and all the rest of it, but hopefully you get to see them soon.
Un point sur la météo de ce samedi après-midi. Comme d'habitude, on commence par l'ouest. À Perth, il y a du soleil. Aujourd'hui, il fait 22 degrés. Des averses à Adélaïde, 17 degrés. À Melbourne, je le vois maintenant par la fenêtre, c'est plutôt nuageux, 15 degrés environ. Pareil à Hobart, mais un petit peu plus froid, 14 degrés. À Canberra, il pleut, il y a des averses, 16 degrés. Averses également à Sydney, 21 degrés. À Brisbane, cet après-midi, normalement, vous avez des éclaircies, 25 degrés. Les températures montent à mesure qu'on va dans le nord, Cairns, 28 degrés, du soleil. Et Darwin, comme d'habitude, là où il fait le plus chaud, 33 degrés. Il y a un grand soleil également. Le rappel des titres. L'assemblée annuelle du lobby pro-armes s'est tenue à Houston, aux États-Unis, en présence de plus de 50 000 membres, dont Donald Trump, l'ancien président qui appelle à davantage armer les citoyens, et ce, trois jours seulement après la fusillade d'Uvalde. La guerre en Ukraine est entrée dans son quatrième mois. Moscou prévient qu'elle sera longue. Volodymyr Zelensky dénonce lui un génocide et les combats se poursuivent dans le Donbass. Et en Australie, la famille Muragappan va bientôt pouvoir retourner à Biloela dans le Queensland. C'était une promesse électorale d'Anthony Albanese.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est la fin de ce journal, mais restez sur SBS News, c'est bien sûr pas la fin de cette émission. Tout de suite, le journal des sports, avec l'un des événements sportifs les plus attendus de l'année. Non, je ne parle pas de la Coupe du Monde, mais je parle bien de la finale de la Ligue des Champions. C'est ce soir au Stade de France. Votre journal des sports de ce samedi 28 mai 2022 et on commence bien sûr avec l'événement du jour, la finale de la Ligue des Champions. C'est ce soir au Stade de France, un choc qui met en scène deux des plus grandes institutions du foot européen, le Real Madrid contre Liverpool, un choc aux allures de revanche après le sacre du Real en 2018. On écoute l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.
I don't know exactly the number, but Real Madrid in the last 10 years won it probably five times or at least four times. So that makes it really special. So that's how I said, and a lot of these players were always involved in these kind of games. So it will be a great game. I really think the world will be red or white on this match day. And that's exactly how it should be. It's real. Historically, two teams were always strong in this competition. And now, in the presence as well, which is a good sign. Competing with this kind of calibers is the best thing you can do. But obviously we are not going there just to be part of, that's clear. But anyway, to be 100% honest, I can't wait to go there. And not because I think, it's Real Madrid, let kick them or whatever, not at all. I know how difficult it will be. It's just having the chance to go again for it is really special.
Cette finale, elle était initialement prévue à Saint-Pétersbourg, mais à cause de l'invasion de la Russie en Ukraine, le match a été déplacé à Paris. Il se déroulera donc ce soir, on l'a dit, à Saint-Denis, c'est en banlieue parisienne, au Stade de France. L'enceinte accueille l'événement pour la troisième fois. Elle avait déjà accueilli la finale de la Ligue des Champions en 2000, puis en 2006. Tanguy Roman-Clavelou est reporter pour Radio France Internationale. Il est allé voir comment les habitants et les commerçants abordent l'événement de ce soir.
D'entendre le ballon.
Sur le terrain de football du stade Auguste Delon, Al-Mamid Ramé anime l'entraînement du soir au Saint-Denis US. Le coach gère 40 jeunes, âgés de 8 à 10 ans. Disciplinés, les apprentis footballeurs sont tout de suite plus dissipés pour parler du choc entre le Real Madrid et le Liverpool de Mohamed Salah et Sadio Mané.
Vous allez regarder le match ?
Qui va gagner selon vous ?
Moi, je dirais un bon 3-1 pour Real.
Peut-être ils ont Salah, ils ont Mané, mais nous, on a Benzema, c'est plus fort.
Et le numéro 9 du Real Madrid fait l'unanimité.
Benzema.
Moi, déjà, il est vieux, c'est mon joueur préféré. Il met des triples en Ligue des Champions alors qu'il a 35 ans. Bah, il est trop fort. Là, il bat Ronaldo, il bat Messi en ce moment, il bat tout le monde.
À côté, le coach Al-Mamid Ramé valide, lui aussi supportera les Espagnols. Avant le coup d'envoi, il pourra profiter avec ses jeunes des animations mises en place par la ville de Saint-Denis, comme pour la finale de Coupe de France entre Nantes et Nice.
Il y a eu des animations devant la mairie, c'était pas mal, avec la présentation de la fameuse coupe du trophée Ligue des Champions. La population a bien aimé et c'était une surprise pour tout le monde, pour tous les enfants aussi.
Pour la finale de Ligue des Champions, la ville de Saint-Denis offre 114 places à ses habitants. Pas assez pour Al-Mamid Ramé.
C'est très peu pour tous les habitants et même les adhérents de tous les clubs. On est un peu déçus, même beaucoup. Le Stade de France, il est à Saint-Denis. Malheureusement, on n'y a pas accès du tout.
Déçus, les Dionysiens, mais ils pourront se consoler avec les retombées économiques, à l'image des restaurateurs autour du Stade de France qui attendent ce match avec impatience. C'est le cas de Kamel, barman d'un restaurant à deux pas du stade. Avec son collègue Christophe, ils aiment particulièrement ce genre de soirée.
Vraiment une ambiance extraordinaire. De toute façon, dès qu'il y a un événement au Stade de France, voilà, c'est l'euphorie à Saint-Denis. Il y a une super ambiance, c'est vraiment quelque chose à vivre.
Alors je vais vous faire voir une vidéo devant la troisième mi-temps lorsqu'il y a un événement au Stade de France. Donc tout le monde est déguisé, voilà, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'australien, voilà, on se mélange tous et vous voyez, c'est voilà, très bonne ambiance.
Et ces événements sont très importants pour ce restaurateur.
Avec l'arrivée du Covid et tout ce qui s'ensuit, aujourd'hui il y a énormément de télétravail et tout ce qui nous permet de nous tenir à flot financièrement, ce sont les événements du Stade de France.
Heureusement pour Christophe, Kamel et tous les commerçants, Saint-Denis va accueillir d'autres événements de grande ampleur dans un futur proche. L'an prochain, ce sera la Coupe du Monde de rugby et surtout les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
On le disait, ce match est très largement attendu. 80 000 supporters vont débarquer à Paris. Deux fan zones ont été créées, une pour Liverpool et une pour le Real Madrid. En tout cas pour les supporters, bien sûr. Près de 7 000 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés. Les autorités sont sur le qui-vive. Elles craignent des débordements. Reportage d'Olivier Sherman.
Ce qui inquiète le plus les autorités françaises, c'est le nombre de supporters, surtout anglais, qui seront présents dans la capitale et qui n'auront pas de billets pour aller assister au match au Stade de France. Ils seront au minimum près de 50 000. Deux fan zones sont mises en place. La première, justement, pour les Anglais, cour de Vincennes, ouverte dès ce samedi après-midi. La grande majorité des forces de l'ordre seront déployées à cet endroit, mais pas seulement. Tout Paris, en fait, sera quadrillé. La seconde fan zone est installée à Saint-Denis, réservée aux spectateurs espagnols avec billets de midi jusqu'à 18h. Cette fan zone sera ensuite ouverte aux riverains, préalablement inscrits auprès de la mairie de Saint-Denis. Dans le centre de Paris, le secteur des Champs-Élysées n'est plus accessible aux supporters anglais et espagnols jusqu'à 18h ce dimanche.
On l'a entendu dans ce reportage, l'inquiétude réside notamment autour des milliers de personnes bien décidées à suivre au plus près leur équipe, même si elles ne peuvent pas rentrer dans le stade ce soir. Jeanne Richard est allée à la rencontre de ses fans.
Déjà plusieurs terrasses de bars de la capitale affichent la couleur rouge pour les Reds de Liverpool.
On est arrivé ce vendredi matin à 9h à Paris, nous sommes tous de Cardiff.
Et pas le temps de faire du tourisme pour cette bande d'amis.
On est là jusqu'à lundi, donc dimanche on prendra le temps de faire des trucs touristiques, mais ces deux jours-ci, vous allez nous voir par ici, un peu partout, en train de faire la fête.
Seulement deux d'entre eux ont pu obtenir un billet pour le match, mais l'important pour les supporters, c'est la cohésion et l'ambiance.
Je suis fan de Liverpool depuis que je suis tout petit, comme mes parents et mes grands-parents avant moi. Donc même sans billet, je vais m'imprégner de l'atmosphère. J'ai hâte d'être là avec tous les supporters de Liverpool. Et puis on va gagner 5-0. Je suis impatient pour ça aussi.
Je n'ai pas de billet non plus. Je suis là juste pour l'expérience. Les tickets étaient peut-être à 7000 euros. Ouais, donc non. Je vais regarder le match dans un bar, boire des coups, être à Paris. Et il y a plein de copains qui sont venus aussi. Donc juste être dans la ville quand ils vont gagner notre 7e Ligue des Champions, ça va être fantastique.
Coup d'envoi du match, 21h, heure française, ce samedi.
Toujours en foot et la lutte pour la Ligue 1 après un match nul au match aller un partout. La JOCR et Saint-Etienne joueront leur avenir dimanche soir en match de barrage. Le vainqueur aura l'honneur de participer à la Ligue 1 donc l'année prochaine. Le perdant ira lui directement en Ligue 2. Autant dire donc que l'enjeu est énorme pour les deux clubs. L'autre événement sportif qui attire tous les regards et qui se déroule lui aussi en banlieue parisienne, eh bien c'est Roland-Garros bien sûr, fin de la première semaine. Carlos Alcaraz s'est défait de Korda sur un score sans appel, 6-4, 6-4, 6-2. Il devient du même coup le joueur le plus jeune depuis Novak Djokovic à atteindre la seconde semaine du tournoi. On écoute le jeune prodige espagnol.
I think it was a great match for me. I played really well, a really good game, trying to be aggressive, trying to dominate the match, and I think it was a great match from the beginning until the end. I didn't think that it's gonna be a great support here in Paris. I think that it was great for me to have a lot of people supporting me here in Paris, a lot of Spanish guy, French guy, and people are on the whole world. So I'm so happy with that.
Victoire pour le Carlos Alcaraz, donc ça passe également pour Zverev, Djokovic et Medvedev qui atteignent donc les huitièmes de finale. Le russe Daniil Medvedev qui deviendrait d'ailleurs numéro un mondial devant Djokovic s'il atteignait la finale de Roland-Garros la semaine prochaine. On l'écoute, c'était après sa victoire sur le serbe Ladlo Djere. Il en a profité pour évoquer le tournoi de Wimbledon et l'exclusion des joueurs russes.
My main job is to play tennis. Try to get points here as much as I can. Again, I'm going to repeat again. If I can play Wimbledon, we'll be happy to be there, even without points. With points, we'll be happy to be there and try to get some points. If I cannot play, I'm going to stay home, practice hard, and try to be better for my next tournaments. That's all I have to say right now.
Chez les dames, victoire de Sloane Stephens sur la Française Paris sur le score de 6-2, 6-3 et la Suissesse Chelnaman bat Azarenka en 3-7. On termine ce journal des sports avec du cyclisme, 19e étape du Tour d'Italie et la victoire du Néerlandais Koen Boumman, déjà vainqueur de la 7e étape. Richard Carapaz n'est pas inquiété pour autant, il reste leader à deux jours de l'arrivée finale.
One win was not enough. You wanted another one?
No. After my first victory, I said it would be really nice if I can have another one, but yeah. Then I also said I need to be realistic. That was only my second victory as a pro. And now winning two stages in the Giro, just so happy. I don't have words.
Tell us about this last corner. Did you know it?
I knew there was a corner to the left, but I didn't knew it was like this this sharp. So I had to brake quite hard. I knew I had to go and take the inside. I don't know if anybody crashed. I don't hope so. And otherwise, I will be sorry for that. But I'm just really happy.
And you have secured the Maglia Azzurra.
Yeah, that was actually the goal of today. Make sure, we would have the blue jersey at the end of the day. And that is now coming with a stage victory. Yeah, I cannot believe it.
Well done. Thank you
so much.
Voilà la réaction du Néerlandais Koen Boumman après sa victoire à la 19e étape du Giro. C'était votre journal des sports de ce samedi 28 mai.
Ça ne changera pas.
un extrait de la chanson Libre, chantée par la chanteuse belge Angèle. Nous sommes le 28 mai, et comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. Aujourd'hui, on vous emmène en 1961. Retour aujourd'hui sur la création d'Amnesty International avec Léo Roussel et des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et de France Télévisions.
We want the freedom to discover ideas, ideas of all kinds. We want space to speak freely about what we believe, no matter who you love, what you look like, or where you're from. We're all equal before the law. We want people.
Peu importe qui tu aimes, à quoi tu ressembles ou d'où tu viens, nous sommes tous égaux devant la loi. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la chanson The Amazing Mozzarellas du chanteur américain Jim Blake, utilisé pour un clip de campagne d'Amnesty International en Angleterre en 2016. Des paroles qui font écho au combat engagé par l'ONG depuis sa création en 1961, à savoir le respect des droits humains. Depuis plus de 60 ans, désormais 61 exactement aujourd'hui, Amnesty International s'attache à défendre la Déclaration universelle des droits de l'homme partout dans le monde, que ce soit lors de guerres, de protestations ou simplement dans la vie en société. L'organisation non gouvernementale dénonce toute forme de violence, de maltraitance, de torture ou de restriction des libertés. La création d'Amnesty International, on la doit à un avocat britannique, Peter Benenson. En 1960, alors qu'il lit le journal, il tombe sur une information venue du Portugal. Deux étudiants ont été condamnés à 7 ans de prison pour avoir, tenez-vous bien, porté un toast à la liberté dans un bar de Lisbonne. Alors rien de choquant, vous me direz, mais seulement à cette époque, le Portugal est sous l'emprise d'un régime fasciste, d'une dictature sous le général Salazar. Alors Peter Benenson, touché par cette injustice, décide, le 28 mai 1961, de publier un article dans le journal britannique The Observer, intitulé « The Forgotten Prisoners », les prisonniers oubliés. La photo de 6 personnes emprisonnées pour dissidence d'opinion à travers le monde est diffusée. L'article est finalement une sorte d'appel à la mobilisation en faveur de l'amnistie et il sera repris dans de nombreux journaux dans le monde et le moins que l'on puisse dire c'est que cet appel va prendre. Des lettres du monde entier sont envoyées à Peter Benenson à Londres et face à l'afflux des soutiens, il décide de coordonner une campagne avec l'aide d'autres défenseurs des droits humains et c'est à cet instant que va véritablement naître Amnesty International. Très vite, dans les années 1960, Amnesty International remporte ses premiers combats et parvient à faire libérer des prisonniers. Et puis l'ONG se trouve un symbole, comme l'explique ce court extrait du journal de 20h en France sur Antenne 2 le 10 décembre 1978.
Et puis à Londres, une manifestation organisée par Amnesty International avec une immense bougie allumée. Une bougie de 175 kilos de cire, de 6 mètres de haut. Une bougie qui symbolise les droits de l'homme et qui voudrait bien être allumée et rester brillante pendant de nombreuses années.
Une bougie donc entourée d'un fil de barbelé qui figure sur le logo d'Amnesty International depuis presque ses débuts. Une bougie et une flamme surtout pour symboliser l'espoir malgré l'oppression représentée par les barbelés. En 1972, l'ONG lance sa première campagne mondiale pour l'abolition de la torture. 3 ans plus tard, les Nations Unies adoptent à l'unanimité une déclaration contre la torture. Et en 1977, Amnesty International est récompensée par le prix Nobel de la paix. Quelques années plus tard, en 1980, Amnesty International lance l'une de ses plus grosses campagnes, l'une de ses campagnes les plus mythiques même, celle contre la peine de mort. Seuls 9 pays l'avaient abolie en 1961 lors de la création de l'ONG. Ils étaient 141 en 2021. Alors, d'autres combats se sont ensuite greffés au fil des années, comme la lutte contre toutes les formes de discrimination, la protection des droits sexuels et reproductifs, la défense des droits des réfugiés et des migrants, la lutte contre les violences faites aux femmes, et j'en passe. Aujourd'hui, Amnesty International, c'est un mouvement mondial qui dispose du caractère d'organisme à voix consultative auprès de grandes institutions mondiales, comme le Conseil économique et social des Nations Unies, l'UNESCO, l'Union européenne, l'Organisation des États américains ou encore l'Union africaine auprès de laquelle Amnesty International dispose du statut d'observateur. Présente sur tous les continents, l'ONG rassemble pas moins de 10 millions de personnes au travers de sections nationales dans plus de 70 pays, de bureaux, de groupes de bénévoles. Et puis Amnesty, c'est aussi un rapport rendu public chaque année qui dénonce les atteintes aux droits humains dans chaque pays. Ces derniers temps, on a pas mal entendu parler de l'ONG à cause de l'invasion russe en Ukraine, entre autres, où elle enquête sur les crimes de guerre commis et où elle appelle à la protection des civils. Mais encore en 2022, Amnesty International poursuit son combat contre la peine de mort, la torture ou les discriminations dans le monde. En 2011, voici ce que déclarait l'ONG pour ses 50 ans et qui pourrait résumer, 61 ans après, l'intérêt de l'existence d'Amnesty International. Tant qu'il restera des gens qui ne pourront pas jouir de leurs droits, notre bougie, symbole d'espoir, continuera de brûler. Elle brûlera jusqu'à ce que tous puissent vivre dans la dignité, tous puissent faire entendre leur voix et que plus personne ne soit torturé ni exécuté.
Europa Voice numéro 97, et comme chaque épisode, hein, le pilier, celui qui ne bouge pas, c'est Nathanaël Bloch. Nathanaël, bonjour.
Bonjour Marianne.
On commence avec la nomination du gouvernement français. Deuxième mandat pour Emmanuel Macron, une nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Vous en parliez justement avec Christophe dans Europa Voice numéro 96. Ce nouveau gouvernement, c'est un gouvernement de transition puisqu'on attend les élections législatives courant juin. Mais c'est surtout un gouvernement de continuité plutôt qu'un gouvernement de rupture, Nathanaël.
Oui Marianne, tout à fait. C'est un gouvernement, vous l'avez mentionné, c'est à la fois un gouvernement provisoire parce qu'il peut y avoir des changements entre maintenant et les élections. On sait qu'une des règles qui n'est même plus tacite, c'est que si un membre du gouvernement se présente aussi à la députation et qu'il est battu, il devra quitter le gouvernement. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur la composition de ce gouvernement et de savoir s'il se restera le même après les élections législatives de juin. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement plus un gouvernement de continuité. On retrouve quelques piliers importants de la mandature précédente. Je pense à Gérald Darmanin à l'intérieur, à Bruno Le Maire à Bercy, qui restent en fait dans leur poste, ou même au chancelier Dupont-Moretti. Et donc effectivement, c'est plus un gouvernement pour l'instant de continuité. Mais je dirais que c'est surtout un gouvernement de continuité parce que encore, en fonction des résultats des législatives, c'est là où on pourra voir quelques nouvelles prises, soit dans la société civile, soit à gauche. Alors après, c'est un gouvernement de continuité, Marianne, mais c'est aussi un gouvernement où Emmanuel Macron continue un petit peu son travail de sape, si je peux m'exprimer ainsi, en recrutant par exemple Pap Ndiaye à l'éducation nationale, qui est clairement une réponse directe à Jean-Luc Mélenchon, lui-même incapable de critiquer cette nomination qui finalement lui convient très bien. Donc un gouvernement de continuité, mais aussi déjà un gouvernement avec beaucoup d'objectifs politiques derrière la tête d'Emmanuel Macron.
Et il y a eu des surprises et il y a aussi eu des départs, notamment un départ qu'on attendait puisqu'on savait qu'il ne voulait pas renouveler, mais ça vaut quand même le coup d'en parler. C'est un historique du gouvernement, 10 ans à des postes clés au sommet de l'État. C'est bien sûr Le Drian.
Bien sûr, c'est l'ancien président du Conseil régional de Bretagne, Jean-Yves Le Drian, qui a fait toute la mandature de François Hollande en tant que ministre de la Défense et qui après est devenu ministre des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron. C'est effectivement une décision qui était attendue. On savait qu'il était sur le départ, qu'il ne remplirait pas pour un second mandat avec Emmanuel Macron. Et d'une certaine façon, c'est aussi assez logique parce que c'est tourné une page que lui-même avait commencé à écrire et qu'il a lui-même en fait déjà tourné. Si je prends deux grands dossiers que Jean-Yves Le Drian a traités, il y avait bien sûr les interventions françaises en Afrique avec l'opération Serval, la France au Mali, jusqu'à l'annonce des engagements des forces armées françaises de Bamako au mois de février dernier. Donc voilà, il a fait toute cette séquence à la fois bien sûr militaire mais aussi politique. Et puis l'autre séquence qui se termine, et c'est un peu un hasard des calendriers, c'est avec cette déclaration de Jean-Yves Le Drian qui disait que la défaite de Scott Morrison lui allait bien. Bah, d'une certaine façon, Jean-Yves Le Drian a aussi tout connu de cette relation France-Australie, puisqu'il a connu la mise en place de ce qu'on a appelé le contrat du siècle, hein, et cette promesse de 12 sous-marins achetés par l'Australie. jusqu'à la rupture de confiance qui est arrivée en fin d'année dernière. Donc, d'une certaine façon, c'est un pilier du gouvernement qui s'en va, mais c'est aussi pour Emmanuel Macron l'occasion d'ouvrir une autre page. Et puis, c'est un départ, mais qui cache aussi finalement le fait qu'il y a une continuité, alors moins aux affaires étrangères, mais aux affaires européennes, avec Clément Beaune qui est confirmé, qui est même, si on parle le mauvais English, qui est upgradé, qui passe de secrétaire d'État à ministre délégué à l'Europe.
Du coup, il aura sa place tous les mercredis autour de la table du Conseil des ministres.
Exactement, il monte dans l'ordre protocolaire et puis aussi une manière pour Emmanuel Macron finalement d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur de la présidence française du tournant du Conseil de l'Union européenne qui, pendant toute cette première moitié, de janvier à maintenant, a quand même été beaucoup occulté, ou en tout cas, l'actualité ukrainienne a pris beaucoup de place. Donc, c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron, peut-être, de faire que Clément Beaune aura un petit peu plus de surface pour agir sur les autres dossiers chers à la France au niveau de l'Union européenne.
Clément Beaune, 41 ans, 24e, vous l'avez dit, maintenant au rang protocolaire, donc un upgrade, pour reprendre vos mots. Qu'est-ce que ça dit de la position française pour l'Europe en ce moment, dans ce contexte politique et géopolitique si particulier ?
Alors, ça dit beaucoup de choses parce que les ministres aux affaires européennes ou les secrétaires d'État, dans les statistiques des gouvernements français, c'est peut-être ceux qui ont la plus faible longévité. Ils changent tout le temps. Donc là, le fait de confirmer en fait quelqu'un, même s'il y a une montée en ordre protocolaire, mais de confirmer la même personne sous cette nouvelle mandature aux affaires européennes, c'est une manière aussi pour Emmanuel Macron de montrer que les dossiers européens lui tiennent à cœur. Et puis, il faut le rappeler, Clément Beaune, même si c'est pas un militant historique, il a tracté, milité très peu pour le Parti socialiste, même si sa famille, il le dit lui-même, a toujours affiché un soutien très fort aux idées de gauche et à la Mitterrandi. Il a été aux affaires européennes, même dans ses précédents postes. Quand il était à Bercy, quand il était dans le cabinet d'Emmanuel Macron, lui-même ministre de l'économie à Bercy, Clément Beaune était déjà chargé des affaires européennes. Donc c'est quelqu'un qui est un vrai spécialiste des questions. Et puis, autre élément qui peut paraître symbolique, mais qui pour moi dit beaucoup aussi, c'est que Clément Beaune, il vient du Collège d'Europe, il vient du Collège de Bruges. Alors, il est aussi passé par l'ENA, mais donc c'est quelqu'un qui, même dans sa formation, s'est déjà confronté à ces questions européennes d'un point de vue de la haute administration. Et voilà, donc c'est vraiment pour Emmanuel Macron une manière de confirmer son attachement aux idées européennes. Et puis, Clément Beaune s'est même investi à titre très personnel sur deux principales questions au niveau européen, sur la question de l'état de droit, de faire que partout en Europe, notamment dans certains pays de l'Est comme la Hongrie, on puisse être sûr que les pays se confrontent à l'état de droit et à ce que les traités européens réclament. Et puis à cette question aussi des droits pour les minorités LGBT, il s'était rendu dans plusieurs pays européens, notamment en Pologne, pour affirmer son attachement à ces questions-là et expliquer comment le cadre européen peut être aussi celui qui est un cadre d'émancipation. Donc véritablement, Clément Beaune, je pense que c'est quelqu'un à surveiller et qui va essayer d'amener beaucoup d'autres encore réalisations pour cette fin de présidence française du Conseil de l'Union européenne.
Je voudrais rester un instant sur les questions européennes et revenir sur le départ de Jean-Yves Le Drian au moment de la passation de pouvoir avec Catherine Colonna, la diplomate Catherine Colonna. Jean-Yves Le Drian n'a pas que fait tacler Scott Morrison et sa défaite aux législatives australiennes. Il a aussi montré une certaine inquiétude vis-à-vis de l'Europe. Il a dénoncé, je cite, une tentation de rompre avec l'histoire européenne de la France. Il a dénoncé un populisme diplomatique d'une partie de l'opposition. Il a pointé du doit aussi le risque que la France soit isolée et exposée. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce discours de départ ?
On peut dire que ce discours de départ, en fait, il est aussi très aligné avec la, encore une fois, avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne, parce que ces questions, en fait, ça dit beaucoup de choses sur les questions de souveraineté européenne, en fait. Et ce qu'on reprochait beaucoup à l'Europe ces dernières années, c'était de ne pas être capable, finalement, d'agir et de parler d'une seule voix. Et que si l'Europe n'est pas capable, au moment de crise, de se montrer solidaire et de faire une, c'était aussi un peu tout le projet européen qui était mis en cause, notamment dans un monde qui est de plus en plus balancé entre les grandes puissances, la Russie et la Chine, on en parlera dans cette deuxième partie d'Europa Voice, il faut que l'Europe soit capable aussi d'avoir une échelle cohérente pour parler. Et cette échelle cohérente, elle n'est pas au niveau d'un pays, elle est au niveau d'une structure politique cohérente qui est celle de l'Union européenne. Et on le voit bien hein, sur plein de dossiers, hein, le dossier de la crise financière sous la présidence Sarkozy, les débuts de la pandémie sous la présidence d'Ursula von der Leyen au niveau de la Commission européenne, on a vu l'Europe a mis beaucoup de temps à se mettre en marche. Après, l'Europe a trouvé une réponse cohérente et a su justement parler d'une seule voix et agir d'une seule voix et mutualiser des moyens, mais il y a toujours ce temps de latence. Et c'est la même chose sur la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, il y a toujours cette tentation de mettre à mal la souveraineté européenne et de montrer qu'il y a une cohérence d'ensemble. Donc, c'est très aligné, en fait, le discours de Jean-Yves Le Drian avec cette idée-là, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de souveraineté européenne, après, il n'y a pas non plus de souveraineté française, justement, sur ces grandes questions. Et c'était un des points clés du discours de passation de Jean-Yves Le Drian, c'était voilà, d'insister pour que ces questions de souveraineté européenne, elles puissent faire sens et elles puissent permettre à l'Europe, et donc derrière à la France, d'avoir une voix forte dans le concert des nations.
Et juste pour finir justement sur cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, la France est à la tête depuis le 1er janvier pour 6 mois. Ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas exercé cette fonction. On est à peu près là aux 3/4 de la présidence tournante. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan ?
Alors, il y a eu un bilan officiel hein, qui avait été fait il y a un mois et demi de cela. Alors, je vais peut-être pas formuler une réponse très satisfaisante, mais je dirais oui et non. D'abord non, parce qu'évidemment, la crise ukrainienne a complètement chamboulé l'agenda européen. Personne ne s'attendait à ce que ce conflit soit si ouvert, si sanglant, si long, mais voilà, il a fait l'actualité de cette première partie de la présidence européenne. Après, on sait que la France avait listé ses ambitions et qu'elle avait 3 axes, en fait, de cette présidence tournante de l'Union européenne. Il y avait l'Europe souveraine, voilà, qui était, pour reprendre les mots utilisés dans cette analyse du discours de passation de Jean-Yves Le Drian, il y avait un nouveau modèle européen de croissance et il y avait la question d'une Europe à taille humaine. Alors, sur le premier volet, celui de la souveraineté, évidemment, cette souveraineté, pour l'instant, elle est testée à l'aune de cette crise ukrainienne. Donc, c'est compliqué, véritablement, de voir les progrès sur cette question-là. Qu'on est capable de dire, c'est que là, il semble que l'Europe, même au niveau des paquets de sanctions, même si à chaque fois il doit y avoir des négociations, et là, les derniers paquets de sanctions, on le voit encore, hein, des pays de l'Est sont en train de mettre le pied sur le frein, mais en tout cas, il y a une réponse européenne, et donc il y a cette idée d'avoir un ensemble politique cohérent, capable de faire front à d'autres puissances. Et puis, un point qui était très important, c'était ça, au début de cette présidence, Emmanuel Macron avait tout de suite voulu renforcer les liens avec le continent africain et avait organisé un sommet qui avait réuni en février dernier des dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne. C'était quelque chose qui aurait dû avoir lieu dans les années précédentes, mais à cause de la pandémie, ça avait été retardé. Et puis voilà, donc ça c'est quelque chose dont on verra les premières réalisations dans les mois, années à venir, cette espèce de plan Marshall de coopération entre l'Union européenne et le continent africain. Après, sur les questions sur le deuxième pilier, le deuxième axe, sur celui du modèle de croissance, le travail est en cours. L'idée, c'est vraiment pour Emmanuel Macron d'essayer de définir c'est quoi l'Europe à 2030. Qu'est-ce qu'on veut achever ensemble sur les questions environnementales, sur les questions numériques, sur les questions sociales. Ça, c'est toutes les questions d'alignement, de neutralité carbone. C'est des négociations qui sont encore en cours, mais en tout cas, ça a été lancé et on ne pourra pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas avoir mis ça à l'agenda du jour. Enfin, sur les dernières questions, celle de l'Europe qualifiée de l'Europe à taille humaine, c'est aussi la question de l'état de droit parce que quand on dit une Europe à taille humaine, c'est aussi une Europe où on est capable, justement, parce que on a fait toute cette politique d'élargissement ces dernières années, d'avoir ce qu'on a appelé, ce qu'on a souvent opposé, politique d'élargissement, politique d'approfondissement. C'est comment est-ce qu'on va être capable d'accélérer les transitions. Alors les transitions économiques, c'est en bonne voie pour les pays de l'Est, et il y a beaucoup de projections qui sont faites, que des pays comme la Pologne ne seraient pas où ils en sont aujourd'hui s'ils n'étaient pas membres de l'Union européenne. Là, la question c'est la question de l'état de droit. C'est comment est-ce qu'on va accélérer cette question de transition pour ces pays-là qui était sous le joug communiste pendant des dizaines d'années, pour que on puisse faire accepter aussi ces valeurs chères à l'Union européenne, surtout sur tout le continent. Donc ça, c'est, je dirais, c'est un volet qui est un peu plus, pour l'instant, un peu plus délicat, où Emmanuel Macron a essayé d'agir, mais c'est compliqué, c'est du temps long. Donc vous voyez, il n'y a pas une réponse, c'est pas noir ou c'est pas tout noir tout blanc. Il y a des choses qui ont été faites. Je serais d'ailleurs très curieux de voir quel sera le bilan officiel, même formulé par l'Élysée, de ces 6 mois de présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.
Comme dirait Christophe, affaire à suivre, Nathanaël.
Sur ce dossier-là, affaire à suivre, effectivement.
Affaire à suivre. C'était Europa Voice numéro 97 avec Nathanaël Bloch, à retrouver sur notre site internet, notre page Facebook et toute votre plateforme de podcast préférée. 13h58, le rappel des titres. L'assemblée annuelle du lobby Pro-Arms s'est tenue à Houston aux États-Unis en présence de plus de 50 000 membres, dont Donald Trump, l'ancien président qui appelle à davantage armer les citoyens 3 jours seulement après la fusillade d'Uvalde. La guerre en Ukraine est entrée dans son 4e mois. Moscou prévient qu'elle sera longue. Volodymyr Zelensky dénonce un génocide et les combats se poursuivent dans le Donbass. Et enfin, en sport, plus que quelques heures avant la finale de la Ligue des Champions, c'est le choc Real Madrid-Liverpool. C'est ce samedi soir au Stade de France. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je suis Marianne Murat, j'ai été vraiment ravie de passer cette heure en votre compagnie. Si vous voulez réécouter nos chroniques, juste les news, le sport ou l'émission dans son intégralité, vous pouvez la trouver sur sbs.com.au/french, sur notre page Facebook, Spotify et évidemment toutes vos plateformes de podcast préférées. La prochaine émission, c'est demain. Elle est présentée par Jean-Noël Ducasse, 13h sur la même fréquence. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.